Merci d'écouter Europe 1, c'est votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral. Le dîner des chefs d'État aura lieu à 20h à Biarritz. Le G7 va donc commencer pour se terminer lundi. Quels sont les enjeux de ce sommet? Vous recevez Thierry François Hesbourg, il est conseiller spécial du président de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Bonsoir François Hesbourg.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Il y a en ce moment des entretiens bilatéraux à Biarritz avant l'accueil des chefs d'État dans une heure maintenant. À la mi-journée, Emmanuel Macron a fait une allocution pour égrener les sujets qui vont être débattus. Le président a notamment évoqué une désescalade pour éviter cette guerre du commerce qui est en train de s'installer partout. On pense bien sûr au bras de fer, notamment entre Pékin et Washington. C'est le rôle de ce G7 ?
Là, on est pour le coup tout à fait dans le rôle du G7 qui, lorsqu'il a été créé il y a une quarantaine d'années, était un organisme d'abord économique et ensuite seulement politique. Or, le commerce international, on est au cœur de l'économie. J'ajoute que ça a démarré effectivement très fort à Biarritz puisque les Européens ont tous dit combien une guerre commerciale serait catastrophique et le président Trump qui prend le contre-pied et qui est bien décidé, apparemment pour l'instant en tout cas, à continuer la guerre commerciale avec la Chine d'un côté et à entrer en matière avec l'Union européenne de l'autre, en commençant bien sûr par les vins français, mais ce n'est pas forcément le plus important.
L'autre point évoqué par le président Macron, c'est bien sûr l'Amazonie. Il a appelé à une mobilisation de toutes les puissances. Nous allons agir, a-t-il dit. Là encore, que peut faire concrètement ce G7 ?
Alors, le G7 en tant que tel, à part mettre de la pression politique, et c'est pas négligeable, tout de suite, il peut, à travers ses membres européens, mettre dans la balance l'avenir de l'accord commercial entre l'Union européenne et ce qu'on appelle le Mercosur, c'est-à-dire le bloc des pays d'Amérique latine constitué autour du Brésil, qui vient d'être signé, mais qui doit être soumis à ratification. Or là, pour le coup, les Européens disposent d'un instrument extrêmement puissant et le président Macron avait d'ailleurs évoqué dès hier la possibilité que l'on ne procède pas à la ratification dans ces conditions.
François Hesbourg, l'environnement, ce sera le principal point de désaccord. Le président américain a apporté son soutien au président brésilien Jair Bolsonaro.
Et alors, le président Trump a dit qu'il apporterait de l'aide au président Bolsonaro, mais après tout, les Européens ne disent pas forcément quelque chose de différent.
Mais on voit très clairement un axe entre le président américain et le président brésilien.
Au plan politique sûrement, mais la notion que l'Amazonie flambe n'est pas quelque chose que les Américains, même ceux qui nient le réchauffement climatique, prennent particulièrement à la légère. Donc il n'est pas évident que l'affaire de l'Amazonie soit un sujet aussi clivant qu'elle est le réchauffement climatique d'une manière générale ou que le sont les affaires commerciales.
Oui.
Et bien sûr aussi, vous avez parlé il y a quelques instants, aussi l'affaire iranienne.
Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, il y a cette bataille forte entre Donald Trump et Emmanuel Macron sur cette volonté française de taxer les GAFA, les géants du secteur des hautes technologies. Hier, Donald Trump, en guise de représailles, menaçait d'imposer les vins français. Ça devient compliqué. Comment on peut travailler avec Donald Trump ?
À vrai dire, personne ne sait trop comment travailler avec M. Trump. Personne n'a trouvé le mode d'emploi, ni ceux qui ont tenté l'approche amicale soft, comme le Premier ministre japonais, l'attitude distante et glacée, c'est Mme Merkel, ou l'attitude amicale mais virile, qui est l'attitude du président Macron. Aucune de ces approches n'a pour l'instant permis de travailler sérieusement avec un président fantasque, capricieux et somme toute imprévisible.
C'est Emmanuel Macron qui reçoit, il a rencontré la presse hier soir, il a fait cette allocution à la mi-journée. Néanmoins, quelle est la marge de manœuvre de la France ?
Alors, la France a une marge de manœuvre plus importante que ce n'aurait été normalement le cas, parce qu'à vrai dire, la plupart des membres du G7 sont politiquement pas vraiment en état de manœuvrer. Vous avez Madame Merkel qui s'avance vers la sortie, les Italiens dont on ignore le nom du prochain Premier ministre.
Donc il est en position de force, vous nous dites, hein, c'est ça?
Alors, il est avec Trump et le Premier ministre japonais à peu près le seul à avoir une capacité de manœuvre parce qu'il est politiquement raisonnablement bien assis et bien entendu, il a l'avantage d'occuper les sièges de la présidence. Ça nous donne quand même de vrais atouts. Emmanuel Macron a souligné que ça allait être très très difficile. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vrai. Mais on n'est pas aussi démunis qu'on pouvait le craindre.
Très rapidement, est-ce que vous attendez à des discussions houleuses pour finalement aucun compromis à l'issue de ce G7 lundi ?
Alors, d'abord, comme il n'y aura pas de communiqué final, et ça aussi c'est une nouveauté, comme l'année dernière, ça s'était très très mal passé au Canada, au G7, où le communiqué avait été grosso modo déchiré par le président Trump, on a décidé cette fois-ci qu'il n'y aurait pas d'exercice de ce type, donc on pourra toujours tirer quelques conclusions du G7 à la fin, mais il n'y aura pas de décision qui engagera les parties prenantes. Je crains que l'on ait un remake d'une rupture certainement entre le président Trump et ses partenaires dans le domaine commercial, dans le domaine climatique et sur le dossier iranien qui va également être discuté.
Ce sera bien sûr à suivre sur Europe 1. François Hesbourg, conseiller spécial du président de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci à vous, monsieur. Merci.
Merci.